Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, l'abbé Alain Laurence, dans le cadre de ce libre journal des traditions, assisté de Stéphane, que je remercie, de Frédéric, qui lui prendra vos appels téléphoniques. Guylaine, exceptionnellement, n'est pas des nôtres ce soir, mais elle sera là la fois prochaine. Et j'aurai la joie, au cours de 7h30, de recevoir Alain Lanavert, que je n'ai pas besoin de présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que vous avez eu une émission, cher Alain Lanavert, très appréciée.
Oui, monsieur l'abbé, très appréciée, je ne sais, un peu appréciée, puisque j'ai tenu à la radio durant 10 ans.
Ah bah oui, quand même.
J'y ai fait mes 10 ans, donc ce sont les anciens auditeurs qui ont pu m'écouter, et je profite de l'occasion pour les saluer affectueusement.
Merci beaucoup. Donc vous êtes professeur agrégé de littérature française et vous allez nous emmener en vacances, si j'ose dire. Puis à 20h, j'aurai par liaison électronique, en visio mais sans l'image, par un procédé que je ne comprends pas très bien d'ailleurs, j'aurai Adrien Peneranda, qui est le directeur de la collection Marcel de Corte aux éditions Oralessima, et la sœur Marie-Elisabeth, qui est dominicaine enseignante, et nous parlerons de l'ouvrage de Marcel de Corte qu'ils ont fait paraître il y a peu aux éditions Oralessima, les mutations de l'Église catholique au XXe siècle. Et Alain Lanavert doit se dire, ça rappelle un petit peu l'histoire des variations des églises protestantes de Bossuet.
De notre cher Bossuet.
On verra cela avec eux, donc à 20h. Et à 20h30, je recevrai Henri Lacoste, qui préside aux destinées de l'association SOS Africa, qui nous parlera du dernier numéro de la revue, qui s'intitule justement SOS Africa. Et je lui demanderai aussi des précisions sur le pèlerinage des pères de famille, qui aura lieu le 21 mars. Alain Lanavert, comment est-ce qu'on trouve encore un inédit de Brasillach aujourd'hui ? Parce que vous faites paraître, aux éditions Les Sept Couleurs, un ouvrage qui n'a jamais été édité.
Oui, c'est toute une histoire et c'est presque un roman. Les vacances sont un roman qui existait à l'état, comme on dit aujourd'hui, de tapuscrit. Ce roman avait été écrit, le manuscrit lui-même disparu. C'est un roman que, âgé de 19 ans, et tout jeune normalien, il venait d'être reçu parmi les derniers, comme moi-même. Il venait d'être reçu au concours d'entrée de l'école normale dite supérieure. Il part en vacances, nous sommes en 1929, il part en vacances, il a 19 ans, il part dans sa famille à Collioure, et en 3 semaines, il rédige un roman qui fait aujourd'hui, qu'il est imprimé, un peu plus de 200 pages. Ce n'était pas le premier essai romanesque de ce très jeune futur écrivain. Il avait rédigé, mais seulement quelques pages, qu'il avait intitulé « 16 ans ». À 17 ans, il s'était occupé de ses 16 ans. Et à 19 ans, il s'était occupé de ses 18 ans. Donc il était porté à se remémorer le temps passé, ce qui sera une des grandes caractéristiques de sa future œuvre romanesque.
Alors, et vous citez, on peut le dire, aux auditeurs de Radio Courtoisie, le texte qui est une ébauche, qui s'intitule « 18e année », vous l'avez publié en annexe.
En annexe. Alors, nous avions entendu parler de l'existence de ce premier roman, totalement inédit, puisque les auteurs de biographies consacrées à Robert Brasillach, je pense à Anne Brassier, à l'excellente Anne Brassier, à M. Pélissier aussi, avaient eu accès à ce texte et ont cité quelques pages. Ce texte était conservé par l'ami et beau-frère de Robert Brasillach, à savoir Maurice Bardèche. Maurice Bardèche avait épousé Suzanne, la sœur cadette de Robert. Les neveux de Robert Brasillach, les 5 enfants qu'eurent Maurice et Suzanne, gardaient précieusement ce tapuscrit et n'en voyaient pas d'usage possible. Est arrivé dans l'affaire quelqu'un que les auditeurs, que les anciens auditeurs de Radio Courtoisie connaissent et apprécient, Philippe Dugue, qui tenait ici une rubrique consacrée au cinéma, très brillant connaisseur du cinéma. Et Philippe Dugue, qui a beaucoup écrit sur Brasillach, qui le connaît admirablement et qui l'aime, je l'aime aussi, Philippe Dugue a convaincu les neveux de Robert Brasillach qu'il y avait lieu de publier cet inédit. Alors le titre « Les vacances » avait déjà été employé par Madame la Comtesse de Ségur, mais il est question en deux, trois endroits de ce roman de Brasillach de la Comtesse de Ségur. Donc nous avons gardé le titre qu'il avait prévu. Philippe Dugue a muni ce livre d'une préface et votre serviteur a rédigé une assez longue postface où je fais valoir l'intérêt de ce premier roman que Robert avait gardé par devers lui soigneusement à telle enseigne que quelques mois en 1944 avant de se constituer prisonnier à la préfecture de police de Paris, il est réfugié chez sa mère à Sens et il en fait tirer une version dactylographiée.
Donc il y tenait.
Il y tenait.
Je pensais que ça n'était pas une œuvre dérisoire. Enfin,
non.
Ça pourrait un jour peut-être être publié comme vous l'avez fait, Philippe Dugue.
Oui, nous pensons avoir respecté les intentions de Robert. Il tenait à ce texte. Et alors, ce qui est très curieux, il y tenait à tel point que dans les romans qu'il va par la suite publier, et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier roman, qui, si mes souvenirs sont bons, se nomme « Les captifs », roman inachevé. Mais le dernier roman qu'il publie en 44, au printemps 44, c'est « 6 heures à perdre ». Dans toute l'œuvre à venir, Brasillach n'a pas manqué d'aller puiser une formule, une phrase, quelquefois un court paragraphe, dans ce roman initial. Qui n'est pas tout à fait un roman, il est pourtant achevé, une petite note, Robert Brasillach dit que c'est simplement un semble roman. Il avait emprunté cette expression à Colette. Colette désignait ainsi ceux de ses livres qui, maintenant qu'elle était couronnée de gloire, lui paraissaient quand même un peu trop autobiographiques. Bon, en effet, ce livre est en bonne partie autobiographique. Donc nous avons résolu, avec l'accord de la famille, de toute la famille Bardèche, de publier ce livre, Les Vacances, qui se lit très agréablement, encore qu'il manque quelques pages.
Ça, vous le signalez.
Oui.
À la fin d'un chapitre ou au début d'un chapitre, il manque 3 pages.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est un roman sur la jeunesse, la fin de l'adolescence, le début de la jeunesse. C'est un roman sans action. Philippe Dugue dit que c'est un roman de plage.
Bon. Ah, lire sur la plage nécessairement.
Non. Deux garçons qui se sont connus, on le devine, au lycée Louis le Grand, et qui, on le devine, viennent tous les deux d'être reçus à Normal Sup.
Et qui s'appellent Maurice et Robert.
Non. Non. André et Jean. C'est deux garçons qui se connaissent peu, partent en vacances ensemble, logent dans un petit hôtel pittoresque et un peu dérisoire, font des rencontres sur la plage, d'autres jeunes gens et bien sûr des jeunes filles. C'est la grande affaire de rencontrer des jeunes filles qui elles aussi sont en vacances et il n'y a pas d'action à ceci près que, et ce roman est très psychologique, et Brasillach venait de lire le dernier volume d'À la recherche du temps perdu, qui avait paru, si mes souvenirs sont bons, en 1927. C'est un roman psychologique, essentiellement psychologique. Et ces deux jeunes gens se prennent d'amitié l'un pour l'autre. Alors quand on sait que ces deux jeunes gens ne sont autres que Maurice Bardèche et Robert Brasillach, l'amitié entre Robert et Maurice durant la trop courte vie de Robert sera très étroite, à telle enseigne que Maurice épouse la sœur de Robert, et après la mort de Robert, Maurice est resté un ami très fidèle de son beau-frère, ami et beau-frère, puisqu'il a servi sa cause, notamment en publiant en 12 volumes ses œuvres complètes.
Et ce qui est curieux, vous le dites dans une très belle note, parce qu'il y a un appareil critique qu'on vous doit et qui est très intéressant. L'intérêt que Brasillach portait à la correspondance de deux cagneux illustres, c'est-à-dire mais de la génération d'avant-guerre, c'est-à-dire Jacques Rivière et Alain Fournier. Et il se passe la même chose d'ailleurs, c'est que Jacques Rivière épouse Isabelle, la sœur d'Alain Fournier.
Exactement. Oui, oui, il y a une coïncidence, enfin une coïncidence, c'est peut-être le rôle de la Providence. Brasillach était lecteur, plus tard il sera un lecteur sévère, mais lecteur de Jules Romain. Dans Les Hommes de Bonne Volonté, vous avez deux cagneux devenus tous deux normaliens, Jalès et Gerfagnon, qui tous deux, n'est-ce pas, prenant des orientations politiques dissemblables, restent des amis dont l'amitié est indéfectible, définitive. Bon, de même, Jacques Rivière et Alain Fournier, mort trop tôt.
Oui, comme dans la Meuse, au début de la guerre.
Comme Robert, mort trop tôt,
oui. Si
l'on pense à ce couple d'amis. Donc c'est un roman sur l'amitié virile, j'essaie de l'indiquer en note, mais les lecteurs, s'ils se portent vers ce livre, le mesureront par eux-mêmes. Il y a déjà trace de ce qui sera, ce qui vont former les talents de Brasillach romancier. Il y a des pages de description de paysages, un paysage méditerranéen somptueux, Collioure. Nous pensons aux pages ravissantes sur le paradis terrestre au début de Comme le temps passe. Il y a des pages sur le temps qui passe, les heures, les atmosphères du moment. C'est occasion de nous dire que très bientôt, Robert Brasillach sera poète, sera proprement poète.
Alors j'ai envie de vous demander une faveur de la part des auditeurs. Ne parlons plus de Brasillach. Et laissons-le parler. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de ce livre ? Donc, je rappelle aux éditeurs de Courtoisie que j'ai la joie de recevoir Alain Lanavert, qui a fait paraître aux éditions Les Sept Couleurs, Les Vacances, roman inédit de Robert Brasillach.
24 euros.
Voilà. et avec un travail sérieux. Vous disiez à juste titre, très belle préface de Philippe Dugue. Je dirais substantiel postface d'Alain Lanavert, appareil critique extrêmement précieux et précis, et puis c'est cette annexe, le 18e année. Mais on ne parle plus de Brasillach, si vous voulez, on le laisse parler.
Alors écoutons Robert, et je prends la première page, le début des vacances. Hein. Le matin fait du bruit aux fenêtres. Les volets fermés de toute leur force sont vaincus par le soleil. Des rayons se glissent sur le mur blanc de chaux. À l'on ne sait quelle imperceptible couleur dans la lumière sur le mur, on devine que c'est le matin. Et puis, les charrettes sont passées dehors. Elles n'ont pas fait ce bruit sourd de la nuit où l'on devine, à l'ouïe, l'élasticité des routes goudronnées, des « Oh !» de charretiers, coupe le martèlement massif des sabots et ce chahut que font les roues, roues qu'on devine immenses, lourdes, ferrées et qui tournent lentement jusqu'à un moment, toutes les 10 secondes, où elles semblent s'écrouler avec des bruits de ferraille. Il y a eu aussi, bien avant même les charrettes, les voix des femmes qui vont chercher de l'eau à la fontaine, la voiture du laitier, puis le facteur, puis le mouvement d'éveil très lent de la maison. Des pas rapides dans le couloir, des brocs choqués, doucement d'abord, puis avec plus de franchise. Qu'est-ce qu'ils ont à dormir, tous ces gens-là ? Raconte la porte claquée, l'appel de la bonne. Comment, madame ? Les tapis secoués avec un bref claquement. Et enfin, c'est un bruit plus franc, un bruit qui est là vraiment. On frappe à la porte, et même l'on entre. « Bonjour !» André Véran se croyait éveillé, mais c'est maintenant qu'il s'éveille pour de bon. Il sourit à son ami, mais il a la figure dure comme du carton. « Quelle heure est-il »« 10 heures. » On peut en effet se lever. Les volets sont poussés, la lumière entre dans la chambre. C'est une chambre blanche, avec un haut lit de bois foncé, une armoire vaste comme un monde, un lavabo, une table à écrire et deux chaises. Cet hôtel est à demi une auberge, mais il est propre et sent la lavande et l'iode. Le soleil est immédiatement chez lui, installé en traînée ou en taches rondes sur les lieux qui sont coutumiers à cette heure du jour. La serrure plate d'acier qui ferme l'armoire, une rainure du lit, monumentale, et cette grande tache en face de la glace du lavabo, si ronde sur le mur blanc, si pareille à la glace, et qui établit entre la glace et le mur un jeu de lumière ronde lancée comme des balles. C'est la lumière de 10 heures. Par la fenêtre, Soled, c'est-à-dire Collioure, Soled et le port. Le port est une coquille pleine de ciel argenté et frissonnant, où se mirent renversées les maisons en terrasse et le clocher rose de soleil qui cingle vers la mer. Sale petite ville! On a jeté les maisons en tas au penchant d'une rude colline et la mer a déchiqueté les rochers. Cela sent l'iode, le poisson gâté, les algues huileuses et glauques. En face, voici la plage de gros galets où s'agenouillent les ravaudeuses de ces filets dont les mailles cordées sont glacées de sel et violemment odorantes. Tout près, les montagnes qui entourent et serrent le petit port et le cercle de mer entre le rocher allongé qui ferme la plage au sable, à la jetée qui s'étire depuis l'îlot de Saint-Alphonse. Il n'y a que 6 jours qu'André est arrivé là, tout neuf, avec une âme de vacances. Et il regarde. Il y a longtemps que tu es levé ? Oui, j'avais rendez-vous chez le père Pietri. Donc les deux amis, l'un s'est levé tôt matin pour louer une barque.
Oui. Alors, il faut penser, il y avait déjà un art de la description assez étonnant. Il a 19 ans,
il ne faut pas l'oublier. Il a 19 ans, c'est une description très remarquable.
Et ça, alors, on va le retrouver, vous dites, dans son œuvre.
Ah oui.
Oui, il sera maître de son art.
Alors, la description de la Méditerranée, le premier roman qu'il signe de son nom en tant que romancier se nomme Le voleur d'étincelles. Et c'est un jeune homme, double sans doute de l'auteur, fatigué de son métier, fatigué de la vie, indécis, et qui va, comme l'on dit aujourd'hui, Brasillac n'emploie pas le mot, se ressourcer dans sa terre natale, c'est-à-dire à Collioure. Et dans ce roman, il y a de somptueuses descriptions de la Cerdagne, de la Catalogne, la somptueuse Méditerranée, midi, sur le port. Et évidemment, le jeune homme du voleur d'étincelles loue une barque. Le voleur d'étincelles va réécrire, d'une certaine façon, ce que le tout jeune Robert avait donné dans ce premier livre.
Et alors, est-ce qu'on voit, bien sûr, le romancier qu'il va devenir, ses belles descriptions, est-ce qu'on voit aussi le poète, et en particulier celui des poèmes de Fresnes, dont je tiens à dire, je ne vous demanderai pas d'en lire un seul, parce que vous m'avez dit une fois, après
Pierre Fresnes,
on ne peut plus lire les poèmes de Fresnes, c'est lui et personne d'autre après.
Oui, je le pense. C'était un lecteur, un grand acteur, et un lecteur incomparable. Alors, les poèmes de Fresnes sont marqués par la foi religieuse de Robert Brasillac. Ici, point du tout. L'on est en vacances et l'on s'affranchit. Alors, c'est une merveille dans ce livre. L'insouciance de tous ces jeunes gens à l'égard de leurs parents. Bon, il avait beaucoup lu Gide, famille, je vous hais.
Ah oui.
En vacances, on est débarrassé des parents. Alors ces garçons et ces filles, qui appartiennent à la moyenne petite ou moyenne bourgeoisie, sont absolument libres de tout, ils se tiennent bien. Ce sont des jeunes gens d'autrefois, des adolescents d'autrefois, pour reprendre le titre de François
Mauriac.
De Mauriac. Ils se tiennent bien, décemment. Mais aucun, n'est-ce pas, ne songe à une autorité du père, de la mère, qui pourrait s'exercer. On est débarrassé des parents. si je puis dire, moyennant quoi on peut sortir de l'adolescence et entrer dans sa pleine jeunesse, et se défaire un peu de la gravité des études que l'on a conduites jusqu'à présent.
Et oui, alors qu'ils étaient en classe préparatoire à Louis-le-Grand, ils ont beaucoup travaillé.
Ils sont tous barbouillés de littérature, et tout le temps ils parlent de littérature, comme le feront d'ailleurs un certain nombre de futurs personnages de Robert Brasillach, qui ont hérité de ces cultures à lui. Mais ils se débarrassent de la culture scolaire à ceci près qu'il y a 2-3 pages sur la psychologie des jeunes filles de Racine, pages qui ne sont pas inintéressantes. Bon, c'est peut-être un cours de cagne que Brasillach a réutilisé, mais en revanche, on parle beaucoup du surréalisme, du cinéma, de l'inconscient.
Ouais. Et alors, dans le style, est-ce qu'il y a dans ce roman inédit, Les Vacances, déjà quand même, c'est-à-dire le style, les cadences, le rythme, les sonorités d'un poète
oui.
ou pas?
Oui.
Parce que ça n'est pas un roman purement descriptif.
Non.
On voit d'ailleurs que ce que vous venez de nous lire est quand même très poétique.
Très poétique. Alors, les personnages, comme vous vous en doutez, ne se contentent pas d'avoir des sensations et de se remémorer leurs sensations de la veille ou de l'avant-veille. Ils parlent. Ils ont des échanges. Alors, je suis frappé de voir avec quel naturel Brasillach fait deviser ses personnages. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi un homme de théâtre, passionné de théâtre, et qu'il a composé, je pense à ce roman que sont les 7 couleurs, il y a une partie, chaque partie, 7 couleurs, chaque partie illustre un genre particulier. Le journal intime, la narration, etc. Même les maximes et le document brut. Et vous avez une partie dialoguée, je me demande si ce n'est pas la meilleure. Il savait très bien faire dialoguer ses personnages. Et il a composé La Reine de Césarée aussi. Donc le dialogue théâtral, il avait 19 ans, il s'y entendait. À mon avis, c'est chose plus difficile encore qu'une bonne description.
Vous voulez dire qu'au fond, ce ne sont pas des dialogues comme on composait les feuilletonistes du 19e de façon alimentaire, c'est-à-dire que comme ils étaient payés à la ligne, c'était « Ah, dit-il, oh, dit-elle !» Et ça faisait déjà 2 lignes.
Point du tout, s'il y avait une réserve à faire, c'est que ces jeunes gens s'expriment dans leur dialogue de façon peut-être un peu apprêtée. Mais après tout, ils sont tous cultivés. Donc pourquoi faudrait-il que des garçons et des filles de 17, 18 ans, de 19 ans au mieux, très cultivés, pourquoi faudrait-il qu'ils parlassent de façon vulgaire? Bon, donc c'est un roman écrit par un homme bien élevé, qui savait parler élégamment, je n'en doute pas, et qui confie ce talent à ses personnages.
Je voulais vous demander... vous avez dit, bien sûr, c'est le roman d'une amitié virile. C'est aussi un roman qui s'intéresse aux souvenirs, à la mémoire. Vous avez parlé de Proust. On sait que dans notre avant-guerre, il pose la question est-ce qu'il faut écrire ses mémoires si tôt?
Enfin, c'est tout.
comment est-ce que vous expliquez cet intérêt pour les souvenirs chez Brasillach?
Alors c'est en effet, monsieur l'abbé, là vous touchez du doigt un aspect majeur et à mon avis caractéristique de son œuvre. Il était hanté par le temps qui passe, d'où des pages entières mélancoliques, nostalgiques et un charme particulier de cette œuvre que l'on retrouverait ailleurs, mais lui excelle à dire la peine douce qui est nôtre quand nous voyons que les heures se succèdent et malheureusement se remplacent, et que le temps se perd. Bon, cela est banal. Mais il va, dans ce roman-ci, et dans ceux qui vont suivre, il va plus loin. Hélas, la chose me semble très originale. Il affirme que l'on ne goûte bien une expérience présente que si, en même temps qu'on la goûte, au présent, on prévoit la sorte de souvenir que l'on en gardera. Autrement dit, L'instant présent, on le vit, on le savoure. Il a lu Gide, il a lu Colette, il y a une sorte d'hédonisme. Bon, il a lu D'Annunzio. Alors, il faut goûter l'instant présent, le bonheur présent. Mais pour bien le goûter, il faut prévoir la sorte de souvenir qu'on en conservera. Et si l'heure est exquise, le souvenir lui aussi sera exquis. Donc, il ne vivait, il a crédité de cette attitude tant et tant de ses personnages que je pense que lui-même, n'est-ce pas, était affecté de ce trait psychologique. À tout instant, il se demandait comment il allait se remémorer ce qu'il était en train d'expérimenter.
C'est le carpe diem avec une... Une anticipation sur le souvenir qu'on en gardera.
J'avais trouvé une formule, elle n'est pas telle qu'elle très claire. Il faut se former des souvenirs à l'avance.
Oui. Ah oui.
À l'avance. Ce qui, selon lui, est lié, certes, à un caractère très singulier, le sien, mais est lié à la jeunesse du cœur et de l'esprit. Il était hanté par la jeunesse, il se désespérait de n'être plus jeune, d'être moins jeune, de perdre sa jeunesse. Il s'affligeait de voir autour de lui, comme tout le monde, des êtres qui vieillissaient. Il aimait beaucoup les romans féminins anglais, et notamment Poussière de Rosamond Lehmann, qu'il a lu très très jeune, et c'est un roman dont il ne cesse de dire du bien. Et dans ce roman de Rosamond Lehmann, vous avez deux jeunes gens, ils ont 20 ans, qui s'engagent, ce sont des Anglais, ils ont tout le sérieux des Britanniques, ils s'engagent à n'être jamais des vieillards. Ils ne veulent pas être vieux. Les personnages de Brasillach sont d'éternels jeunes gens. Alors comment eut-il lui-même, s'il avait vécu vieilli, oui. Je n'en sais trop rien. Mais cette façon d'appréhender le temps qui passe est très singulière. Et c'est peut-être la façon d'un poète.
Sûrement, sûrement. Alors je rappelle aux auditeurs, et je leur donne d'ailleurs une bonne nouvelle, l'ouvrage n'est pas proposé à 24 euros, mais à 22.
22 euros.
Alors c'est bien Robert Brasillach, Les Vacances, roman inédit, préface de Philippe Dugue, postface et notes d'Alain Lanavert, aux éditions Les Sept Couleurs. Comme il nous reste 2 minutes, on peut les donner à Brasillach?
Oui. S'il vous plaît, monsieur l'abbé, je me permets de livrer aux auditeurs cette information. Les éditions Les Sept Couleurs m'ont fait l'honneur de me demander de préfacer Notre avant-guerre, qui sort ces jours-ci,
oui.
Dans quelques jours, édition des Sept Couleurs, Notre avant-guerre. J'ai rédigé une courte préface, et je ne me suis pas occupé d'annoter le livre, il y faut une compétence d'historien. Notre avant-guerre est peut-être, avec Comme le temps passe, le chef-d'œuvre oui. de Brasillach. J'informe nos aimables auditeurs que samedi 28 mars prochain, je signerai, quoique je n'en sois pas l'auteur, ce volume de Notre avant-guerre à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, à Paris, pour les Parisiens. Je ferai ce petit travail qui me plaît, parce que c'est l'occasion de rencontrer des lecteurs et des amis de Brasillach. Je ferai ces signatures de 15h à 18h, samedi 28 mars à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, pour Notre avant-guerre.
Oui, il se demande si on peut écrire ses mémoires à l'âge qu'il a.
Oui, bien sûr.
Évidemment.
Oui, et c'est un livre merveilleux. Oui. Enfin,
j'ai personnellement lu justement entre l'Hippocagne et Lacan, c'était le bon moment.
Oui. Et c'est là où il affirme, n'est-ce pas, que l'école normale, où il n'y a pas de règlement, aucune exigence particulière, que l'école normale a comme principal mérite de ne pas exister. On entre dans une école qui n'existe pas, donc c'est le bonheur.
Alain Lanavert, un grand, grand merci pour cette évocation de Robert Brasillach. Et je suis persuadé que les auditeurs de Radio Courtoisie viendront nombreux vous retrouver à la librairie Duquesne le 28 mars de 15h à 18h.
Merci, monsieur l'abbé. Merci, chers auditeurs.
À très bientôt. Chers amis de Radio Courtoisie, un message important de la radio, et j'ose le dire aussi pour la radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Donc vous avez entendu que c'était un petit SOS que la radio vous adresse. Et si vous voulez qu'elle continue, si vous voulez entendre Alain Lanavert dans d'autres émissions, eh bien ayez cette générosité que nous vous demandons d'avoir. Je voudrais donner deux petits rendez-vous juste avant de donner la parole à nos deux invités que je vois déjà sur un écran, et je les en remercie. D'abord, les conférences Sainte-Cécile qui vont proposer le dimanche 29 mars, c'est-à-dire le lendemain de la séance de signature d'Alain Lanavert, une conférence littérature et musique dans l'œuvre de Molière, Lully et Charpentier, par Patrick Métrop. Ça a lieu à 20 rue Gerbert. Les places sont limitées. Il faut donc prévenir Marie-Vonne Tréguier au 06 81 69 90 04. Je répète, 06 81 69 90 04 en disant que l'on vient. L'entrée est libre, mais il faut quand même prévenir que l'on vient. Donc, ça, c'est une première annonce. Et la deuxième, c'est une messe qui est célébrée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay pour les victimes de la rue d'Isly. Et elle a lieu, cette messe, alors, juste avant la signature d'Alain Lanavert, c'est le jeudi 26 mars à 10h30. Ça sera le 64e anniversaire des victimes de la fusillade du 26 mars 62 rue d'Isly à Alger. Donc Saint-Nicolas, toutes les familles de victimes vous invitent à cette cérémonie. Alors j'ai la joie maintenant de retrouver une religieuse et un universitaire, une religieuse que je connais bien, et j'en suis vraiment ravi. Ma mère, vous vous êtes plongée dans Marcel de Corps parce qu'il était belge et que vous êtes belge? Non, peut-être pas.
Bon, monsieur l'abbé, pas directement, mais c'est une raison comme une autre.
Sûrement, ça c'est très bien. Et vous, Adrien Federanda, donc, vous vous êtes intéressé à Marcel de Corps. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a attiré en lui?
Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, chers auditeurs. J'ai découvert Marcel de Cortes pendant ma thèse de doctorat que je conduisais sous la direction d'un professeur qui appartenait à l'école du constructivisme, qui est une posture épistémologique qu'on peut retrouver dans certaines disciplines aujourd'hui à l'université. Et ce directeur de thèse m'avait encouragé à chercher les meilleurs contradicteurs au constructivisme, parce qu'il était convaincu que cela renforcerait cette position. Et en cherchant, comme il me le demandait, loyalement des contradicteurs, j'ai assez vite découvert que Marcel de Cortes était le philosophe réaliste au XXe siècle qui avait sans doute les meilleurs arguments à opposer au constructivisme. Et en fait, en me plongeant dans son œuvre, qui était difficilement accessible à l'époque, c'était au début des années 2010, L'intelligence en péril de mort n'avait pas encore été rééditée, je l'avais découverte en ligne grâce à quelques extraits, eh bien j'ai vécu ce qu'on peut appeler une sorte de conversion intellectuelle, et je me suis passionné pour son œuvre, et grâce à l'ouverture des archives quelques années plus tard, eh bien cela m'a permis de poursuivre l'aventure en contribuant à la réédition de ses œuvres.
Merci beaucoup. C'est une démarche que je pense plusieurs auditeurs qui vont devenir les lecteurs de Marcel de Cortes feront. Enfin, je pense qu'eux aussi voudront trouver des arguments pour bâtir, construire et non pas déconstruire, comme on fait un petit peu trop aujourd'hui, ou alors oublier, déraciner avec ce qu'on appelle le wokisme, mais je ne le dis pas parce qu'on est sur Radio Courtoisie et qu'on n'emploie pas de termes anglais. Alors, Mère Marie-Elisabeth, vous êtes dominicaine enseignante de Fangeau. Est-ce que Marcel de Cortes a cours chez vous? Est-ce que les professeurs de philosophie propose aux jeunes filles qui sont en terminale des textes de Marcel Decorps, des ouvrages peut-être. Est-ce que même l'ouvrage dont nous parlons, Les mutations de l'Église catholique au XIXe siècle, va devenir un manuel pour les jeunes filles ou pas? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, un manuel, non, bien sûr, mais je l'ai apporté en classe. J'en ai lu quelques extraits et notre aumônier venait de les entretenir du modernisme. Et je leur ai fait valoir qu'un certain nombre de pages de cet ouvrage reprenaient exactement les mêmes considérations et que je pensais qu'elles pouvaient les lire. Vous savez que nous avons ouvert la collection en publiant un Descartes, philosophe de la modernité. Je les ai engagés à lire certains passages, quelques articles, lorsque nous avons étudié Descartes. Personnellement, je ne peux pas, en un sens, j'allais vous dire, j'ai moi-même découvert Marcel Decorps en classe de philosophie. Ce n'est pas complètement vrai. Je l'ai entendu une fois, je devais avoir 12 ans. Bien sûr, je n'ai pas compris ses propos, ça me dépassait complètement. Donc, je l'ai lu pour la première fois, moi-même, élève des dominicaines. Nous faisons lire, par exemple, « Deviens ce que tu es », dont nous préparons pour le moment la réédition. Nous faisons également lire « L'intelligence en péril de mort »,« L'homme contre lui-même ». Et puis personnellement, puisque grâce à Adrien Peneranda, j'ai eu accès à toutes sortes d'archives, j'ai constitué un certain nombre d'extraits de textes que je leur donne lorsque nous étudions Bergson ou Gabriel Marcel ou sur les trois activités de l'homme. Le fait que l'activité de l'intelligence qui cherche à comprendre est vraiment l'activité première avant l'activité transformatrice de la matière, par exemple.
Alors, l'ouvrage que vous nous proposez, évidemment, traite de la crise qui, malheureusement, secoue l'Église au cours du XXe siècle. Et d'ailleurs, il y a pour sous-titre « Où en est le catholicisme ?». J'aimerais savoir, en le demandant à Adrien Peneranda, est-ce que les étudiants que vous connaissez sont intéressés, en clair, est-ce que Marcel Decorps dit quelque chose aux esprits contemporains? Est-ce que son style est compréhensible? Est-ce que sa pensée est accessible? Vous avez été, vous le dites, converti. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable?
Alors, ça, j'en suis convaincu. À l'université, c'est toujours le cas, c'est encore le cas, puisque quand j'ai découvert Marcel Decorps, en même temps que moi, d'autres étudiants à l'université d'Aix-en-Provence le découvraient et même mettaient en valeur ses textes. Je pense en particulier à deux condisciples que j'avais à l'université qui étaient très intéressés par les critiques de la technique. Et Marcel Decorps figure aujourd'hui comme un penseur à la fois visionnaire et qui est allé très en profondeur dans l'analyse du problème de la technique moderne et de notre société technicienne. Il est entré lui-même dans la carrière universitaire par des travaux sur Aristote et le De Anima, donc la question de la doctrine de l'intelligence chez Aristote, et il a conclu, entre guillemets, sa carrière par la réédition de son grand ouvrage, L'intelligence en péril de mort. Donc aujourd'hui, où nous ne parlons que d'intelligence artificielle, lui avait très bien compris et perçu et su transmettre à ses contemporains, et cela parle encore aujourd'hui aux jeunes, ce qu'est véritablement l'intelligence et ce qu'elle est devenue sous l'effet de la technique. Et je crois que ce que l'on peut retenir de Marcel Decorps, en premier lieu, c'est sa très grande fidélité. D'abord, fidélité à la lecture authentique des textes. C'est pour ça qu'il est reconnu comme un très grand aristotélicien. Fidélité également à l'interprétation thomiste des textes aristotéliciens. Et cette fidélité, aujourd'hui, revient. J'en veux pour preuve le fait qu'il est redécouvert par la revue Thomiste à Toulouse. Il y a eu un colloque l'année dernière sur le thomisme et le droit, que la revue Thomiste a édité les actes. Et la revue Thomiste se souvient que Marcel Decorps était un contributeur dans ses pages dans les années 30 sur des textes qui aujourd'hui sont réédités. Donc, toujours actuels.
Ah, très bien. Et là, ce que vous dites, c'est un petit peu ce qui est au cœur de l'intelligence au péril de mort. Il dénonce bien sûr cette intelligence fabricatrice de son objet, qu'il appelle poétique, parce qu'il pense bien sûr au grec, poiein, et alors qu'elle doit être contemplative. Et là, elle doit être théorique, c'est-à-dire qu'elle doit véritablement contempler le réel, qu'elle ne crée pas. Et là, je pense que vous avez tout à fait raison, ça peut éclairer le débat actuel sur le virtuel et que sais-je d'autre. Et je pense, vous, ma mère, qui avez au fond affaire à des jeunes filles qui ont 17-18 ans, je pense, en terminale, le virtuel, c'est quand même un risque. Et le retour au réel, c'est peut-être ce qu'il faut leur proposer grâce à Marcel Decorte.
Tout à fait. Avec cela, les jeunes filles que nous avons sont beaucoup pensionnaires. La semaine, elles ne sont pas dans le virtuel, où certaines de leurs familles sont tout de même très, très saines, très protégées, bien qu'il ne faille pas, se leurrer. Le risque est là, ou la tentation. Et là, je pense que c'est plutôt cela, c'est très attirant.
Oui.
Moins elles le connaissent, peut-être plus c'est attirant en un sens.
Alors là, je voulais maintenant m'adresser à vous en vous demandant, vous, dominicaine, pour faire paraître cet ouvrage, est-ce que vous n'êtes pas devenue bénédictine ? Parce que c'est un travail de bénédictin, il faut l'avouer. Ou est-ce que vous allez, il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie le sachent. C'est un ouvrage magnifique, on peut se le procurer pour 25,50 € aux éditions donc Aura Decima. Ça ne fait pas moins de 536 pages, mais vous n'avez pas fait un copier-coller d'un ouvrage qui existait déjà. Non, vous êtes allé chercher partout, vous avez butiné, et c'est pour ça que je dis que vous êtes devenue bénédictine. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas tout à fait. Disons que la composition de l'ouvrage lui-même n'a pas été si difficile que cela. J'ai bénéficié de lectures antérieures, j'avais lu nombre d'articles de Marcel Decorte et surtout j'avais pris des notes. Et donc, je peux dire qu'en peut-être 2 fois 3 semaines, l'essentiel de l'ouvrage était constitué. Ce qui a pris énormément de temps, nombre de mes connaissances le savent, c'est l'élaboration des notes et surtout la recherche des références. Par moments, c'était un véritable roman policier. Je ne sais si je peux vous conter cela. J'ai remis, si. Peut-être pas tout à fait ciel et terre, mais disons les continents. Pour donner une idée, Marcel Decorte avait composé pour Itinéraire quelques articles extrêmement documentés et beaucoup d'articles où il citait, grâce à ses propres notes, mais sans donner les références. Et nous avons décidé de chercher ces références. J'ai passé un an dans... non pas d'ici, mais d'essai, la documentation,
oui.
À chercher les références de Paul VI. Et le sommet, le clou, si vous me permettez, la palme revient à une citation qui était attribuée apparemment à un discours du 4 septembre 1956. Et dans la documentation catholique, je trouve un discours de Paul VI à cette date-là, enfin du futur Paul VI, qui tenait des propos diamétralement opposés à ceux que j'avais sous les yeux. Je me dis, je veux bien que tout le monde sait que Paul VI se contredisait, mais le même jour, en public, et surtout quand je ne trouve qu'un discours, ce n'est pas possible. Alors, je cherche, quelques pages avant, Marcel Decorte parlait de Maria Winowska, je me dis, mais aussi bien cette citation se trouve dans le pape de l'Épiphanie de Maria Winowska. Quelqu'un m'en trouve une version néerlandaise, alors pour trouver une citation française dont je ne sais où elle est, dans un livre en néerlandais que j'ai oublié, ça ne convenait tout de même pas, donc j'obtiens une version française qu'un professeur de l'université de Louvain me fait aimablement scanner, envoyer, je trouve la citation et je la trouve à la date du, je suis désolée, je ne sais plus par cœur, je dirais du 6 juin 58. Avec une référence à l'Osservatore Romano. Donc je me dis, que faire ? Heureusement, nous avons une religieuse italienne, donc je contacte sa mère et je lui dis, pourriez-vous, s'il vous plaît, me trouver l'article de ce jour-là, que je sache, oui ou non, si le pape a tenu ses propos et où il les a tenus. Donc elle m'a envoyé ce scan en italien, je ne parle pas l'italien, mais enfin bon, nous avons fini par trouver la citation.
Et comme vous dites, c'est vraiment... une enquête policière.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai été jusqu'en Amérique. le vénérable président de la American Chesterton Society, Dale Alquist, lui-même, m'a fourni la référence d'un passage de Chesterton qui est page 296 dans le livre. Donc, vous voyez, nous avons été très loin. J'ai aussi contacté le professeur émérite de l'Université de Louvain, professeur Paul-Augustin de Proust, grand spécialiste de Saint-Augustin, mais éminent helléniste aussi. Et lui a scruté Julien Laposta à la recherche de ses propos sur l'éloquence. Et là, j'avoue que si mes auditeurs finissent de résoudre l'énigme, ils pourront toujours écrire à l'éditeur pour le faire savoir, parce que je ne sais d'où sort ce qu'on appelle en termes littéraires la belle infidèle, c'est-à-dire la citation fort lointaine de Julien que donne Marcel de Corte. Je sais que Benoît Méchain l'emploie aussi dans son Julien ou le rêve calciné, mais nous ne savons pas quelle est l'origine de cette citation très belle mais très libre.
Souvent, ce sont des traducteurs du 19e qui sont des spécialistes justement de ces belles infidèles, oui. Et d'ailleurs, pour que les auditeurs soient bien persuadés que c'est un énorme travail, je tiens à le dire, il n'y a pas moins, dans cet ouvrage qui fait 436 pages, il n'y a pas moins de 50 pages de notes. Donc tout est vérifié, tout est référencé, c'est absolument remarquable. Alors j'aimerais peut-être, puisque vous avez cité un ouvrage, en nous disant que dans cette collection Aura Decima, consacré à Marcel de Corte, il va y avoir un prochain ouvrage, peut-être là, un peu plus accessible pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Marcel de Corte. C'est « Deviens ce que tu es ». Il faut peut-être rappeler à qui s'adresse l'ouvrage, qui est ce garçon qui doit devenir ce qu'il est. Il est question de Léon, c'est quelqu'un de sa famille. Est-ce que je peux demander à Adrien Pedranda de nous éclairer un petit peu sur l'identité du fils auquel l'ouvrage est dédié, il faut trouver.
Oui, donc il s'agit de Léon de Corte, qui est né en 1937 et qui a été atteint très jeune de la polio, dont il va souffrir, mais en offrant ses souffrances avec une très très grande vie intérieure, une très belle spiritualité qui est magnifiquement mise en valeur par ses parents, Marcel et Marie de Corte, qui lui dédient cet ouvrage, qui ont donc peu de temps après son décès, il est mort à 18 ans en 1955, ses parents ont voulu raconter sa vie parce qu'ils étaient convaincus qu'elle pourrait édifier les jeunes de leur temps, et nous sommes, nous, convaincus qu'elle peut encore, évidemment, édifier les jeunes à notre époque. Surtout que l'Église, récemment, met en lumière, à travers un certain nombre de canonisations, de jeunes saints. Elle veut montrer, encore aujourd'hui, évidemment, des modèles de sainteté. Alors, Léon de Corte, il n'y a pas de procès de canonisation en cours, évidemment, mais c'est un garçon qui avait une très grande foi et qui, au travers des lettres avec ses cousins, de sa vie de famille, nous montre véritablement comment on peut souffrir chrétiennement en ayant seulement une douzaine d'années jusqu'à sa mort. Mmh. Marcel et Marie de Corte ont eu 5 enfants certains sont encore en vie aujourd'hui, et grâce à eux, nous allons pouvoir proposer une réédition de l'ouvrage qui comprendra un carnet de photographies de la famille, et également, à nouveau, puisque c'est un peu l'ambition de la collection, un appareil de notes, une carte de la Belgique, et donc cela permettra de vraiment plonger dans la vie de la famille de Corte au XXe siècle.
Alors, une question que tous les auditeurs se posent, donc je vous la pose, quand est-ce que ça va sortir?
Très prochainement, puisque nous en sommes vraiment aux dernières épreuves du manuscrit chez l'éditeur, donc je pense que avant l'été, l'ouvrage sera en vente dans les librairies. Ce ne sera pas le seul à paraître dans les mois à venir, puisque nous éditons plutôt, ce sera totalement inédit, la correspondance entre Marcel de Corte et un autre grand philosophe thomiste, qui est Louis Junier, qui a longtemps enseigné à l'Institut d'études politiques de Toulouse, où je me trouve et où j'enseigne à l'heure actuelle, et où Marcel de Korte était venu faire une conférence devant ses étudiants en 1956. Et donc, c'est la publication de cette correspondance va suivre l'ouvrage « Deviens ce que tu es ».
Donc, on peut dire, avant l'été, « Deviens ce que tu es », et à la rentrée, la correspondance Junier de Korte.
Tout à fait.
Parfait. Alors, je me tourne vers Mère Marie-Elisabeth. Adrien Prédéranda vient de nous dire que Léon de Korte avait 18 ans, lorsque le bon Dieu l'a rappelé à lui. Vous avez des élèves qui ont cet âge. Quelle est l'influence d'une telle lecture sur des jeunes filles qui peuvent se sentir proches, puisqu'il s'agit d'un garçon qui a leur âge? Ça, c'est la première question, mais vous savez, je vous propose une question à double détente. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce titre « Deviens ce que tu es ». Alors d'abord, les jeunes filles, comment est-ce qu'elles réagissent?
Elles aiment énormément ce livre. Elles trouvent ce jeune garçon si plein d'idéal, très inspirant. Elle l'admire énormément. Je dirais principalement cela. Et puis elles sont heureuses, c'est tout à fait accessoire, mais elles sont heureuses d'avoir entre les mains un livre facile à lire.
Oui.
Au milieu de leur lecture philosophique, souvent un petit peu ardue. Non, réellement, cela leur parle. Certaines peuvent avoir aussi l'un ou l'autre frère ou sœur qui est handicapé, par exemple, ou dans notre monde, où il y a tant de débats sur les enfants trisomiques, sur les handicapés, sur le respect de la vie, etc. C'est une très belle figure, c'est une très belle leçon. Je pense qu'elles admirent aussi le courage des parents. Mais c'est principalement, certainement, la figure de ce jeune homme, nous l'étudions en illustration du développement de la personnalité. Mais ce que c'est justement que de devenir soi-même.
Voilà. Et alors c'est cela, parce que, comme vous le dites, c'est un ouvrage qu'elles doivent trouver facile à lire, et je peux vous assurer que les auditeurs de Radio Courtoisie seront peut-être heureux d'entrer dans l'œuvre de Marcel de Korte par un ouvrage facile, et non pas par un ouvrage qui leur tombe des mains, ces ouvrages qu'on lit non pas avant de s'endormir, mais pour s'endormir. Je voudrais leur dire que non, d'ailleurs, il faut avouer que de Korte a un style plutôt tonique, ça n'est pas un anesthésiste, c'est quelqu'un qui... C'est plutôt un réanimateur, si les gens se sentent un petit peu... Mais même dans le style, dans le vocabulaire, il parle de façon très franche, très nette, très directe, et c'est agréable. Sur la crise de l'Église en particulier, c'est pas un langage chantourné, feutré, même, je dirais, affleuré, moucheté, c'est pas tout à fait son genre, non. S'il faut ferrailler, il ferraille. Donc ça, c'est déjà un style intéressant. Comme d'ailleurs Junier. Junier aussi avait un style assez direct. Mais si l'ouvrage est facile à lire, c'est quand même, malgré tout, avec ce titre justement, c'est un ouvrage qui introduit à la pensée philosophique, parce que « Deviens ce que tu es », c'est une question philosophique.
Tout à fait. Tout à fait. La citation est reprise à Nietzsche, qui lui-même la reprenait au poète grec Pindare. Il s'agit donc de développer ce qui est déjà là. Tout le monde connaît les notions d'acte et de puissance, enfin, je pense tout de même, ce qui est donné là en puissance au point de départ, comme dans la graine, en germe, et qui doit se développer, qui doit s'épanouir. Donc il s'agit à la fois de développer sa nature humaine et en même temps ses virtualités personnelles, son caractère, ses qualités, ses atouts. Et donc ici, c'est le cas d'un jeune homme dont la vie aurait paru finie, disons d'un jeune garçon dont la vie aurait paru finie avec ce handicap terrible, et qui malgré tout va pouvoir développer non seulement son intelligence, mais son cœur, son âme, grâce à son courage, grâce au soutien de sa famille, grâce à sa foi. Et donc comment développer ce donner initial malgré les circonstances, et tout le monde peut connaître des circonstances malheureuses dans sa vie.
Donc c'est ça, au fond, c'est un petit peu un écho à ce que nous lisons dans l'Évangile, de ne pas enterrer les talents et de faire fructifier, parce que nous avons une responsabilité, nous aurons des comptes à rendre.
Oui, oui.
C'est sûr. Alors, je me tourne vers Adrien Vedranda pour lui demander si, en tant que directeur de la collection, vous avez eu des retours à propos de l'ouvrage dont nous parlons, bien sûr, les mutations de l'Église catholique au XXe siècle. Est-ce que vous avez déjà des personnes qui vous ont dit « Ah oui, ça nous a éclairé sur telle ou telle chose » ou d'autres ouvrages, parce que, comme, vous avez, comme disait Mère Marie-Elisabeth, vous aviez publié auparavant l'ouvrage consacré à Descartes, également, il était question d'économie même. Quels sont les fruits que vous pouvez recueillir dans les réactions de vos lecteurs?
Alors, une réaction très récente de mon prieur, mais j'allais dire parmi les différentes réactions que j'ai, elles se ressemblent en un sens, c'est-à-dire que Marcel de Korte aide à y voir clair. Ouais. Il le fait d'abord parce qu'il, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il nomme un chat un chat. Il n'a pas un langage ambigu, équivoque, et il est capable également de finalement de parler à la fois aux parties les plus hautes de l'intelligence et donc de s'adresser à notre esprit sur le plan philosophique, mais également il est capable de descendre dans l'arène et de prendre à bras le corps certaines questions qui continuent d'être très actuelles. Et je dirais que aujourd'hui les questions qu'elles soient économiques ou qu'elles concerne la position de l'Église, par exemple, face au monde, et bien sur ces sujets-là, l'ouvrage que nous venons de publier, « Mutation de l'Église catholique », est un outil de travail assez remarquable. Alors, Mère Marie-Elisabeth, tout à l'heure, a parlé de le souci d'exactitude des citations, parce que, évidemment, dans ces sujets, la matière est trop grave. Il faut savoir exactement ce qu'on dit les uns et les autres, les acteurs du débat. Mais au-delà de cette exactitude, l'avantage que nous propose Marcel de Korte en le suivant, c'est de remonter à finalement la première partie qui ouvre l'ouvrage aux racines philosophiques de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et ces développements qui partent, par exemple, du subjectivisme jusqu'à cette mentalité fabricatrice que nous retrouvons et que nous pouvons aujourd'hui retrouver, par exemple, dans certaines liturgies modernes, évidemment que la lecture de Marcel de Korte est extrêmement roborative parce que elle met des mots sur ce que parfois on ressent comme n'étant pas normal ou n'étant pas à l'endroit.
Elle met des mots, MOTS, sur des mots MAUX, c'est ça. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a d'ailleurs dans la préface que Mère Générale accorde à cet ouvrage, et on est tout à fait d'accord. C'est déjà bien quand on peut définir, circonscrire, et ne pas rester dans une espèce de flou et de vague qui met mal à l'aise. Alors à tous les deux, j'ai envie de vous poser une question avant de nous quitter. Et après, qu'est-ce que vous avez comme ouvrage? Là, vous nous avez dit qu'il y aurait la correspondance Junier et de Korte. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages auxquels vous pensez? Alors, je demande à Mère Marie-Elisabeth si elle peut nous le dire. Nous sommes entre nous, vous pouvez nous dire. Je ne le répéterai pas.
Nous avons d'immenses projets. Il y a quelque chose comme 5 cartons de manuscrits dans les archives de Liège. Donc, nous avons de quoi faire. Certains ont été publiés, d'autres non. Nous savons qu'il y avait un ouvrage sur Bonald qui était en préparation et qui est inédit. Nous avons aussi l'envie de rééditer « Essai sur la fin d'une civilisation » parce qu'il y a une demande. C'est un très beau livre. Nous avons aussi donc le projet, un peu comme ce que nous avons fait jusqu'à présent, de choisir des thèmes, entre autres le thème de la poésie. Marcel de Korte, comme Maritain, mais sans qu'ils aient été nécessairement d'accord, a énormément réfléchi sur l'acte poétique, sur sa nature, à la demande de poètes, entre autres. Et nous avons de nombreux articles sur le sujet. Ça pourrait être une publication très intéressante. Je vais peut-être laisser Monsieur Peneranda nous parler de votre projet.
Alors, il y a peut-être d'autres projets, mais peut-être aussi, pouvez-nous dire ce qui serait déjà un petit peu commencé. Est-ce que, après Junier de Corte, est-ce que vous savez déjà sur la liste qui serait le prochain sujet à traiter?
Oui, alors, qui est déjà en cours et assez avancé, un ouvrage qui va s'intituler « Philosophie du droit » et qui reprend le cours que Marcel de Corte donnait aux licenciés de l'Université de Liège en première année de faculté de lettres et de faculté de droit sur cette question tellement importante que Marcel de Corte appelait « l'introduction éthique au droit ». Comprendre et définir les grandes notions de la morale avant d'entrer dans la matière juridique. Donc c'est un ouvrage qui est déjà en cours d'élaboration. Je signale également que la collection ne visait pas simplement à éditer ou rééditer des ouvrages de Marcel de Corte ou des inédits, mais également à faire appel à d'autres d'autres contributeurs qui travaillent autour ou sur la pensée de Marcel de Corte. Je signale que récemment a été soutenu par Monsieur Fabien Melun, frère Martin en religion, à l'Université de Louvain à la fin de l'année 2025, une thèse de doctorat sur Marcel de Corte et sa contribution à l'histoire du catholicisme social. Marcel de Corte est quand même un philosophe qui a déjà connu deux thèses de doctorat consacrées à son œuvre, celle du professeur Danilo Castellano, alors même que Marcel de Corte était encore vivant et qu'il exerçait encore comme professeur en 1975, au moment de son accès à l'émérita, et 50 ans plus tard, cette nouvelle thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain. Donc il y a aussi une actualité scientifique autour de Marcel de Corte.
Un grand merci, tout ça nous plonge dans une grande curiosité intellectuelle, parce qu'on se dit qu'il va y avoir encore, nous avons eu déjà cette conversation hors antenne, mais je tiens à reprendre, je crois que vous avez fait vraiment une très belle œuvre, et l'un et l'autre, parce que on pouvait craindre que Marcel de Corte ne soit pas connu, qu'il y ait une génération sacrifiée, un peu comme pour Junier. C'était parce qu'il n'est pas dans le courant dominant de la pensée actuelle. Il est même à rebours de beaucoup d'erreurs et de sophismes. Et là, le travail que vous avez fait, que vous faites et que vous allez poursuivre, permet justement de transmettre une œuvre dont vous nous avez montré l'actualité, parce que c'est cela, il pose bien les questions, il met bien les mots justes, mais surtout il apporte des éclairages, des lumières dont on a besoin, parce que nous nous sentons un petit peu dépourvus dans la période actuelle. Malheureusement, les penseurs ne sont pas légion, il faut reconnaître, en tout cas les réalistes. Alors je voudrais simplement dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous avons parlé de l'ouvrage de Marcel de Corte qui vient d'être édité, « Les mutations de l'Église catholique au XXe siècle, où en est le catholicisme ?» C'est dans la collection Marcel de Corte aux éditions Aura Decima. Le plus simple d'ailleurs, c'est sur un moteur de recherche, tapez « édition d'Aura Decima » et là vous aurez aussi toutes les références, toutes les adresses dont vous avez besoin. Un grand merci à l'un et à l'autre et puis continuez.
Bonsoir,
Monsieur Labbé. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons après cette liaison qui est bien pratique. Je tiens à remercier d'ailleurs Stéphane. Grâce à lui, on peut se retrouver à l'autre bout de la France sans aucun problème. Les deux invités étaient à deux endroits différents, mais la liaison était parfaite. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup mieux qu'au téléphone. Alors là maintenant, c'est plus qu'en direct, il est en face de moi, il me regarde les yeux dans les yeux. Henri de Lacôte, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Labbé.
Alors, je voulais vous demander deux choses, SOS Africa et le pèlerinage des pères de famille, puisque vous avez une double casquette, c'est ça, vous êtes et dans l'un et dans l'autre. Mais d'abord parlons d'SOS Africa, c'est une association, c'est une revue.
Alors, merci pour votre invitation Monsieur Labbé, pour parler ce soir de SOS Africa. SOS Africa est une association qui vient en aide aux missions de la Fraternité Saint-Pédis en Afrique. Pour juste partir un petit peu sur l'histoire, elle a été fondée il y a une dizaine d'années, et à l'époque, cette association était limitée à l'aide de l'apostolat au Nigeria. Voilà. Et puis, à la demande de l'abbé Le Grier, qui est le supérieur du district d'Afrique, nous avons étendu le champ de notre association, si je puis dire, à l'ensemble des pays qui sont desservis par la fraternité sur ce continent. On l'a fait avec beaucoup de joie et d'enthousiasme parce que c'est vrai que ça fonctionnait assez bien. Le Nigeria était content du travail que l'on pouvait faire. Et puis au-delà de ça, c'est un soutien aussi pour les prêtres que d'avoir des référents en France qui publient une revue et qui essayent de relayer leur apostolat sur place, qui, il faut le dire, est quand même parfois quand même assez difficile. On reviendra sur quelques exemples, hein, mais je lisais avant de revenir une interview d'un prêtre au Kenya qui nous racontait que parfois des fidèles pouvaient mettre plusieurs jours pour venir à la messe à pied. Enfin voilà, c'est des exemples comme ça qu'on n'a franchement pas l'habitude de voir en France, donc c'est assez touchant.
Oui. Est-ce qu'on peut dire, justement, la fraternité, bien sûr, est implantée en Afrique. En ce sens, elle est dans la suite de l'apostolat missionnaire de Mgr Lefebvre, qui, lui, avait connu Libreville, mais Dakar. Est-ce qu'on peut dire quels sont les pays que la fraternité dessert, quels sont ceux où elle est véritablement implantée, c'est-à-dire là où il y a vraiment des prieurés, puis je crois qu'elle rayonne autour un petit peu. Combien y a-t-il de prêtres? Est-ce qu'il y a des religieux, des religieuses? Est-ce qu'il y a aussi un clergé d'origine africaine? Est-ce que... Voilà, éclairez-nous.
Effectivement, c'est intéressant de regarder quelques statistiques. Aujourd'hui, la fraternité Saint-Pédis en Afrique, c'est 24 prêtres qui ont 8 nationalités différentes, hein, en fonction des pays, s'ils sont anglophones ou francophones. Et puis parfois, certains doivent s'adapter et puis apprendre la langue s'ils ne la connaissent pas. C'est 11 religieuses et un frère. Voilà. Et ça permet de desservir 7 prieurés dans 4 pays. Voilà. C'est le Gabon, c'est le Nigeria, c'est le Kenya et c'est l'Afrique du Sud. Voilà. Ça, c'est vraiment les prieurés sur lesquels la fraternité est implantée. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les pays desservis. Alors, c'est ceux-là pour qui c'est le plus dur, parce qu'ils n'ont pas la messe tous les dimanches, parce que c'est assez loin. L'Afrique, c'est immense. Et donc, quand on dessert un pays voisin, on prend l'avion. Donc, les prêtres ne peuvent pas forcément s'y rendre tous les week-ends. Mais voilà, donc les pays desservis, c'est la Namibie, c'est le Zimbabwe, c'est Madagascar, c'est la Réunion, c'est la Tanzanie, c'est le Bénin, c'est le Ghana, voilà. Et alors parfois, là, je cite des pays,
Maurice.
Mais parfois, c'est une fois par mois, quoi.
Ouais, c'est donc, ça.
Voilà. Ce qui est important de noter, et ce qui me semble tout de même assez récent, c'est le nombre de vocations qui commencent à éclore de ce continent. Et c'est assez frappant. J'ai échangé avec l'abbé Le Grier à ce sujet la semaine dernière, et il me disait qu'actuellement, il y a 8 séminaristes qui viennent d'Afrique, qui sont répartis donc dans 3 séminaires, à Flavigny à Écône, à Dilwyn aux États-Unis et à La Rioja en Argentine. Il y a déjà eu hein, d'ailleurs des prêtres africains ordonnés par la fraternité, je crois que c'est pour le Kenya notamment. Au Nigeria, il y a eu le premier, je crois, en 2025, donc ils étaient très enthousiastes. On raconte ça dans le dernier ou l'avant-dernier bulletin, avec la première bénédiction du prêtre qui est revenu sur place pour donner la bénédiction.
Alors, il faut dire aux auditeurs de Courtoisie qu'en plus, votre revue est merveilleusement bien illustrée. Et ça compte en Afrique, parce que la réception de ce jeune prêtre par sa famille, ils sont tous habillés de rouge, dans une joie indescriptible. C'est merveilleux, on a l'impression de participer à la joie familiale, oui.
Ouais, c'est vrai, c'est très touchant. Et puis c'est un aboutissement quand même pour eux, parce que parfois ils ont eu un pré-séminaire, hein, notamment au Nigeria, où ils sont... comment dirais-je, mis un peu à l'épreuve un an ou deux avant pour les préparer. Donc là, ils apprennent le latin. Quand ils sont envoyés à la Rioja en Argentine, ils apprennent en plus l'espagnol. Donc c'est quand même un parcours, en plus du séminaire, qui est long.
Ouais. Et cela, c'est quand même très encourageant, je pense. Mais alors, vous dites, les chiffres, c'est quand même un peu surprenant. Par exemple, au Gabon, une école, combien de centaines d'enfants, un catéchisme, combien, enfin, y a des chiffres extraordinaire. Je pense que certains prieurés en France aimeraient avoir les mêmes chiffres, et peut-être même à Paris.
Oui, effectivement, y a un fort développement des écoles ces derniers temps dans les pays d'Afrique desservis par la fraternité. Il y a deux écoles au Gabon, une école pour les garçons, une école pour les filles. Il y a une école en Afrique du Sud et une école au Kenya. Rien que ça représente 900 élèves. Pour des écoles. Alors le Gabon, je crois que ça a ouvert en 2012, mais les autres, c'est extrêmement récent. Donc c'est des chiffres qui sont impressionnants. Alors ça démarre tout doucement et puis ça grossit énormément d'un coup. Je crois même qu'ils ont un projet d'ouverture d'école au Nigeria également. Donc ça n'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
Et ils sont obligés aussi de repousser les murs. On voit une photo comme les publicités d'autrefois, avant, après. C'est une chapelle trop petite. On voit effectivement, ils devaient assister à la messe presque dehors. Et puis là, ils ont été obligés de construire une vraie chapelle pour recevoir les fidèles dans ce prieuré. Alors, c'est très parlant quand on voit ça. On se dit oui, c'est heureusement que SOS Africa est là et qu'il y a des bienfaiteurs pour aider à développer cette mission. Et je trouve que la réponse des Africains est très encourageante parce qu'il ne faut pas les difficiles. Au contraire, ils accueillent, ils reçoivent avec gratitude tout ce qui arrive et ça se développe.
Oui. En fait, on s'aperçoit que même avec la simplicité des moyens qu'on a, on découvre en Afrique une église jeune, fervente et profondément vivante. Et je crois que c'est ça qui est vraiment marquant sur ce territoire. Vous parliez des églises trop petites, ça m'a frappé. Il y a le père Champroux qui, dans notre dernier bulletin, nous racontait qu'il avait dû casser le mur latéral d'une église pour que les fidèles qui étaient dehors puissent voir. Voilà. C'est quand même incroyable. Et ça y est, là, on est très contents pour eux parce que il y a une nouvelle église là qui va sortir de terre et qui va enfin pouvoir accueillir les centaines de fidèles qui se précipitent à la messe le dimanche. Là, on parle d'une église de 700 places quand même. Donc,
Et là, vous donnez justement des maquettes, enfin, il y a des photos, c'est très très bien fait.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le dernier numéro, oui. Le numéro 22, qui date d'octobre 2025, que vous pouvez retrouver sur le site mission-sosafrica.org. Vous avez tous les derniers
bulletins. Donc si on tape voilà. Mission SOS Africa sur un moteur de recherche, on est chez vous peut télécharger gratuitement.
Gratuitement. Mais en dernière page, vous avez quand même la possibilité de faire un don si la lecture vous a plu.
Sûrement.
Et puis alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'on a innové sur les deux derniers bulletins où on a voulu faire un peu d'histoire, si je puis dire. Et donc on raconte la guerre des bourgs sur les deux derniers bulletins et le troisième épisode de la guerre des bourgs sera pour le prochain. Des articles très bien faits, rédigés par Antoine Delacoste.
Voilà. Qui est un oncle, je présume.
qui est très proche de la famille. Et sur le plan scolaire, je voulais quand même revenir dessus, parce qu'on pourrait se dire, mais ces écoles, c'est très bien, mais est-ce que ça marche? Et alors, j'ai interrogé les différents prieurs, et les résultats sont excellents. Il y a 100% de réussite au bac, que ce soit pour le Juvénat du Sacré-Cœur, que ce soit pour Notre-Dame de la Providence au Gabon. Et même au Kenya, on me disait que l'école avait reçu une accréditation pour être un centre d'examen Cambridge. Voilà. Et en 2025, les 11 élèves de l'école ont passé leur premier diplôme Cambridge avec succès. Donc c'est enthousiasmant.
Oui, ça c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir affaire justement à une jeune chrétienté. Parfois, on se dit, certains sont là, un petit peu installés, un peu embourgeoisés dans la tradition. C'est pas le cas. Là, c'est missionnaire à fond.
Complètement. Complètement. Sur la mission, vraiment, les missions en Afrique, ça nous rappelle que l'Église ne grandit pas par les moyens, mais par la foi. C'est ça qui est frappant là-bas, hein, quand on échange avec eux, quand ils reviennent en France et qu'on discute, c'est autre chose.
Ouais. Et vous-même, vous avez eu l'occasion de visiter l'Afrique, vous avez pu aller, dites-nous vous-même, alors, impression de notre envoyé spécial, alors, ou au Gabon, alors, en Afrique du Sud.
J'ai eu la chance d'aller au Gabon il y a quelques années, je n'étais pas encore président de l'association SOS Africa, je dois le préciser, mais voilà, j'avais de la famille là-bas, et donc j'ai pu découvrir le prieuré du Gabon, qui est un des tout premiers, hein, je crois, parce que ça a ouvert en 1985, hein, suite à des visites de Mgr Lefebvre. En fait, d'ailleurs, on peut le souligner, hein, l'Afrique du Sud, c'est grâce à Mgr Lefebvre, le Gabon, c'est grâce à Mgr Lefebvre. Les autres priorés sont un peu plus tardifs, mais quand on regarde en fait la carte de l'apostolat, hein, qu'on trouve en première page de tous les bulletins, on se rend compte que ça rayonne avec des pays quand même assez limitrophes, mais le chemin est encore long.
Il faut dire d'ailleurs que Mgr Lefebvre, quand il était à Dakar, était le représentant du Vatican, et donc il s'occupait de toute l'Afrique francophone, donc il visitait tous ces pays. Enfin, bien sûr, il avait en tant qu'archevêque de Dakar, il avait son ministère là, mais il pouvait aller justement jusqu'à Madagascar, jusqu'à La Réunion, tout ce qui était d'Afrique francophone, et il a laissé un souvenir, et lui-même avait gardé un souvenir très précis de ces pays qu'il avait visités, qui étaient en voie de développement, où les routes n'étaient pas encore des autoroutes, on s'en fout. Il était aussi très attaché à ces populations, les ayant emmenés ou à Rome ou à Lourdes, il était ému de leur émerveillement.
Oui, tout à fait, et j'ai même appris que, je sais plus très bien dans quel pays, il me semble que c'est le Gabon, où au départ, c'est un de ses anciens élèves séminaristes qui l'appelle et qui lui dit « Venez ici, il faut faire quelque chose, il faut ouvrir quelque chose. » Donc, il devait être très certainement déjà admiré par ses élèves.
Oui, parce qu'il était bâtisseur. Alors, bien sûr, on lui doit de superbes églises, cathédrales, mais il était aussi, comme tous les missionnaires, il était capable d'être mécanicien, il pouvait mettre les mains dans le cambouis pour réparer une Jeep ou que sais-je. C'est un aspect à soupçonner peut-être de Mgr Lefebvre, mais est tout à fait réel. Alors donc, on peut se procurer donc simplement par Atali. Si on veut faire un don, vous avez vous donnez l'IBAN,
oui, alors
tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire un...
C'est très bien fait, il y a tous les liens qu'il faut sur le site, vous n'avez d'ailleurs pas besoin de télécharger la revue pour ça, vous cliquez dans la rubrique « Faire un don » et puis ça vous emmène vers une page sur laquelle vous pouvez choisir la mission pour laquelle vous voulez donner, si l'une ou l'autre vous parle, ou si vous avez de la famille dans l'un de ces pays, ou si vous connaissez le prêtre en question qui dessert et que donc il y a une affection plus forte sur une mission plutôt qu'une autre. Mais vous pouvez aussi faire le choix de donner à toutes les missions de façon indifférente. Et dans ces cas-là, les supérieurs du district visent les plus nécessiteux du moment.
Et là d'ailleurs, dans ce numéro, vous avez mis l'accent sur un pays plus spécialement, c'est ça, cette année?
Tout à fait, sur le grand projet du Kenya, l'église que j'évoquais tout à l'heure. Ça a été un petit peu long et laborieux, puisque entre les premières maquettes du projet et l'autorisation de le réaliser, il s'est quand même écoulé 5 ans. Parce que parfois, c'est pas toujours simple. Je sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais en tout cas, je sais qu'au Nigeria, à l'époque, ils avaient dû acheter plusieurs fois le terrain avant que ce soit vraiment à eux, parce que c'est pas comme en France où il y a un cadastre, etc. Donc il y a des gens qui arrivent et qui se revendiquent propriétaires du terrain en question. Donc c'est parfois des batailles juridiques qui peuvent être un peu complexes.
Donc ça rassurera les Français. L'administration peut être encore plus tatillonne, plus compliquée qu'en France.
Oui.
Alors, ce qu'on apprend aussi, parce qu'il y a des témoignages de ces prêtres, c'est que aussi la loi sur les étrangers peut être très très dure, puisque ces prêtres sont des Français, des Européens, et ils doivent demander très régulièrement, parfois même quitter le pays pour reprendre des visas de touristes ou que sais-je. On n'entre pas comme on veut dans ces pays-là.
Exactement, et puis alors, d'un pays à l'autre, c'est extrêmement différent.
Moi, pour être allé au Gabon, ça m'avait frappé. Je suis parti sans visa parce qu'on m'avait dit qu'en fait, en arrivant, il y a quelqu'un qui, par la grille, allait me passer un papier que j'allais remplir et j'allais rendre le papier par la grille de l'autre côté. Enfin, c'était complètement fou, mais on a fini par avoir le visa tamponné à un moment donné, puis on a pu arriver dans ce pays. Donc, j'imagine que si c'est ça au Gabon, moi, ça doit être encore autre chose au Kenya et puis peut-être encore autre chose au Nigeria, je ne sais pas.
Et là, est-ce que vous avez déjà revu, cette revue paraît quoi? Tous les 6 mois, tous
Tous
les...
les 6 mois, oui, on
Et vous avez
publie.
déjà en vue le prochain numéro? Vous voyez un petit peu qu'est-ce que l'abbé Le Grier, donc qui est prêtre français et qui est le supérieur du district d'Afrique, est-ce qu'il vous a déjà un petit peu dit sur quel
Bah,
pays?
ce que je peux vous dire, c'est que ce sera pas le Kenya, puisqu'ils ont
C'est
déjà eu la
fait.
couverture du dernier bulletin. Le choix pour l'abbé Le Grier est pas facile, parce que les besoins sont immenses. Alors, on a un peu parlé du Kenya ce soir, mais il y a le projet d'ouverture d'école au Nigeria. Il y a le chantier du lycée Notre-Dame de la Providence à Libreville, parce que comme ces écoles grandissent, bah, il faut construire d'autres bâtiments. Il y a la chapelle d'Abuja au Nigeria, parce qu'à Abuja, il y avait à peu près rien, un tout petit endroit dans lequel ils pouvaient tenir à 50-60, sachant qu'ils sont déjà 200-250 le dimanche. Bon, je voyais une photo des dernières confirmations où ils avaient dressé une tente pour pouvoir accueillir l'évêque et célébrer un peu comme ils pouvaient. Donc, les besoins sont immenses pour l'Afrique.
Alors, on va peut-être redonner. Il n'y a pas d'adresse postale, c'est une adresse internet seulement, mais vous avez peut-être une adresse électronique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références pour ceux nos
Ouais,
auditeurs qui
tout à
voudraient
fait. Donc,
vous joindre?
pour vous rendre sur le site, vous allez sur mission-sosafrica.org.
Mission au singulier ou
Mission au singulier,
bien?
mission au singulier-sosafrica.org. Si vous souhaitez nous adresser un courriel, vous écrivez à contact sosafrica@gmail.com, contact sosafrica@gmail.com. Et si vous voulez nous adresser directement un chèque, il y a une adresse postale qui est le 15 avenue Larcher, 78 400 à Chatou.
Très bien. Larcher s'écrit.
Larcher.
Très bien. Et on trouve tout ça, évidemment, sur le site. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous faites, vous, Henri Lacoste, le samedi 21 mars.
Eh bien, le samedi 21 mars, c'est le printemps, et je me suis dit qu'on pouvait aller se promener. Alors, pour la 13e année consécutive, va s'élancer le pèlerinage des pères de famille, organisé avec le mouvement catholique des familles. C'est un petit pèlerinage, hein, parce que c'est un pèlerinage qui dure une journée. Voilà. Il y a 28 km à parcourir, donc c'est relativement court, mais faut être quand même en forme. Mais alors que ceux qui sont moins en forme ne s'inquiètent pas, on a depuis quelques années une voiture balai, si jamais il y a des gens qui se mettent à boiter au bout de quelques kilomètres.
Et pour ceux qui ont fait le semi-marathon il n'y a pas longtemps, ce sera très facile, 28 km.
Tout à fait, ils se reconnaîtront et pour eux c'est une promenade de santé, hein, tout à fait. Donc le départ s'effectue en gare d'Épernon. Et l'arrivée se fait à Notre-Dame de Chartres. Donc c'est une jolie route puisqu'on traverse les chemins de Saint-Jacques. Donc on traverse de jolis villages, on traverse la Beauce et puis on a la joie d'apercevoir la cathédrale au bout de la moitié de l'itinéraire à peu près. Et on
Qui
arrive
encourage pour avancer.
tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, en fin d'après-midi, vers 17 h, on arrive à Notre-Dame de Chartres où on peut faire traditionnellement nos dévotions. Et puis, je précise quand même qu'il y a la messe sur le parcours, c'est important, on a la chance d'avoir la messe sur le parcours dans une église, et voilà, ce qui permet de bien compléter la journée.
Alors, est-ce qu'il faut être membre du mouvement catholique des familles pour participer à ce pèlerinage ou...
Non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'être membre. Alors, en revanche, si vous êtes membre, c'est mieux de venir, ça c'est sûr. Je précise d'ailleurs, parce que j'ai la question parfois, ça n'est pas que pour les pères de famille, ce sont pour les pères de famille, mais également ceux qui désirent l'être, hein, ou ceux qui vont bientôt l'être. Voilà. Donc c'est un public assez large. On a toutes les tranches d'âge, des jeunes mariés d'une vingtaine d'années, parfois même des grands-pères qui viennent avec nous. Alors, habituellement, il y a une centaine de personnes là, qui marchent. On a pu acquérir une belle statue de Saint-Joseph il y a 2 ans maintenant. Donc on sera ravis de la ressortir. Elle marche en tête, absolument. Et voilà, les pèlerins se succèdent pour la porter avec beaucoup d'enthousiasme.
Et alors pourquoi est-ce que vous vous adressez aux pères de famille, même si c'est au sens large, même si ça peut être des futurs pères de famille ou si ce sont des grands-pères de famille, pourquoi au fond vous adressez à ces hommes qui ont des responsabilités?
Originellement, le pèlerinage est un pèlerinage à Saint-Joseph. Saint-Joseph, modèle des travailleurs. Donc, on s'est adressé aux pères de famille. Très certainement aussi, parce que ce sont des choses qui se multiplient beaucoup. On parle beaucoup de Cotignac. Ces derniers temps, il y a beaucoup de pèlerinages qui sont multipliés à Cotignac avec les pères de famille. Bon, mais Cotignac, il faut aller quand même dans le sud de la France.
Elle va.
c'est pas à côté. Donc là, pour tous les franciliens, c'est quand même assez facile de se dégager une petite journée et puis rentrer chez soi le soir.
Et là, donc, comme pour le pèlerinage, vous êtes accompagné d'un aumônier, vous priez, vous...
Tout à fait. Alors, on est accompagné de plusieurs prêtres, hein, habituellement. On a au moins maintenant 3 prêtres hein, qui nous accompagnent, entre celui qui célèbre la messe, celui qui confesse, celui qui nous aide à méditer. Donc, ouais, en général, on a la chance d'avoir au moins 3 prêtres avec nous qui nous accompagnent sur cette journée. C'est une grande grâce, je veux dire.
Il nous reste 30 secondes. Une question, puisqu'il n'y a pas de femme, l'intendance... Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le... On ne mange rien, bien sûr.
Non. Alors, effectivement, on prévoit dans les consignes d'apporter un repas tiré du sac. Et puis parfois, il y a un petit peu plus parce que l'organisation offre l'apéritif pour qu'après quelques heures de marche, on puisse être revigoré. Et puis, on entend parfois aussi dans les sacs à dos des uns des autres, un bruit qui ressemble peut-être à une bouteille ou quelque chose comme ça.
Vous nous donnez juste avant de nous quitter l'adresse où on peut s'inscrire.
Oui, alors vous vous rendez sur le site du MCF, donc c'est le site www.m-c-famille.fr. www.m-c-famille.fr.
Et il y a un onglet.
Un
grand merci Henri.
Merci,
à bientôt. Chers amis, bonne soirée. Nous nous retrouvons dans 15 jours.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions créé par Claude Giraud et dirigé aujourd'hui par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 12 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.